Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio UDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et merci d'être avec nous sur UDFM Radio en FM, Web Radio, DAB+, ou sur notre appli UDFM pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Humanité, création, patrimoine, edtech, innovation, recherche et business. Bienvenue dans l'univers de Cergy Paris Université et l'EUR École Université de Recherche et CY Transfer. Ce matin, mardi 14 mars, découvrons une nouvelle approche de cette université qui s'inscrit sur la carte, qui s'inscrit toujours sur la carte des formations d'excellence et de la recherche de haut niveau. Avec nous pour en parler, Quentin Bonnefond. Bonjour Quentin.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence dans nos studios. Quentin, vous êtes responsable développement et relations internationales de l'EUR Humanité Création Patrimoine. Vous nous expliquerez votre rôle au sein de cette approche innovante et pluridisciplinaire que propose l'EUR, son développement et ses projets. À vos côtés, Isabelle Hofkens. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre nouvelle présence à l'économie en direct. Chef de projet Educate et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer, vous nous préciserez quelle est votre expertise en lien avec EUR Humanité. Et comme nous l'avions souhaité, vous nous tiendrez informés des suites du programme d'accélération CY EdTech Labs, dont vous êtes la coordinatrice. À vos côtés, Céline Bertin. Bonjour Céline.
Bonjour Jacqueline.
Et ravie de vous accueillir à votre tour dans notre studio. Céline, vous êtes la responsable marketing et communication de CY Transfer. Également coordinatrice du programme CY EdTech Labs pour la partie communication. Non,
je dis une bêtise.
Oui, bon, rectifierez, Céline. C'est grâce à vous que toutes ces émissions avec IDFM spécial CY peuvent avoir lieu. Et merci de votre étroite collaboration. Aujourd'hui, vous nous avez rejoints car mardi 28 mars se tiendra le salon Techinov au Parc Floral de Paris.
Oui, c'est ça.
Un salon où CY Transfer sera présent et vous nous direz toute l'importance de cette participation à tel événement. Merci à tous les trois de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct. Avant de vous donner la parole, d'abord un communiqué de presse et ensuite on retrouvera notre chef de l'instant saveur. Donc le communiqué de presse, il s'agit, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, le Rotary Club de Taverny-Beauchamp-Franconville organise son 10e loto, grand loto, le vendredi 17 mars 2023. Au profit de ses œuvres et de la Fondation Rotary pour l'éradication de la poliomyélite. 21 lots prestigieux à gagner, écran plat, vélo, outillage, électroménager, champagne. Et ça se passe au Centre culturel Saint-Exupéry, 32 rue de la Station à Franconville. L'ouverture des portes aura lieu à 18h30 et le début des jeux est à 20h précise, avec une buvette sur place. La réservation sur loto.rctb95@yahoo.com est fortement conseillée pour éviter des refus à l'entrée. Et je sais qu'il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes amateur de loto. Voilà pour ce communiqué de presse. Et comme tous les mardis, nous commençons par notre chronique Instant Saveur avec notre expert amateur en bon petit plat. C'est pas un oxymore, hein, expert amateur. Bruno Vigoureux, oui. Bonjour Bruno et merci d'être présent avec nous ce matin.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien pour vous ?
Ça va Bruno, oui, vous êtes là donc tout va bien.
Parfait. Alors aujourd'hui Jacqueline... Je vais vous faire une confidence. Vous savez que j'adore vous faire des confidences.
Ah oui, mais devant tout le monde comme
bah,
ça.
Bah oui, je sais. Alors voilà, accrochez-vous.
Je m'accroche.
J'adore les soupes.
Ah.
Pendant tout l'hiver, j'en mange. Un potage poireau pommes de terre, c'est un grand classique. Un velouté de potimarron, mon petit-fils s'en régale à chaque fois que je lui en fais. Et bien d'autres encore. Mais là, ce que je vous propose, c'est autre chose. C'est une soupe épaisse mais surtout savoureuse. Je l'ai faite là ce week-end et on s'est franchement régalé. Pour tout vous dire, Jacqueline, vous savez que j'adore vous faire des confidences, le résultat était même au-delà de ce que j'attendais. Alors je vous vois vous interroger, qu'est-ce qu'il va nous préparer ? Eh bien, je vous propose une soupe épaisse au ad hoc. Et ne commencez pas à me dire que vous n'aimez pas ce poisson. Essayez d'abord et on en reparlera après. Je suis sûr que vous allez vous régaler. Alors, on va faire cette recette pour 4 personnes. Comme toutes les soupes, c'est facile à réaliser pour un résultat qui, je le répète, va vous bluffer. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de 600 g de pommes de terre à chair ferme, 3 poireaux, 4 branches de céleri, 350 g de haddock, 30 centilitres de crème fraîche épaisse, 3 feuilles de laurier, 6 brins de persil plat, 50 g de beurre, du sel et du poivre, bien évidemment. Alors, pour commencer, vous nettoyez vos légumes, vous épluchez et lavez les pommes de terre et vous les coupez en gros cubes. Vous nettoyez les poireaux en les fendant en deux dans le sens de la longueur et vous les émincez en les coupant en rondelles. Vous émincez également les branches de céleri. Ensuite, dans une cocotte, vous faites fondre le beurre et vous ajoutez les poireaux pour les faire suer, c'est-à-dire afin qu'ils soient bien tendres. Vous ajoutez ensuite les pommes de terre et le laurier et vous mouillez à hauteur avec de l'eau chaude. Là, vous couvrez et vous laissez cuire pendant 30 minutes. Vous avez donc largement le temps de prendre votre ad hoc et de le couper en dés. Au bout des 30 minutes de cuisson, vous ajoutez dans la cocotte le ad hoc, le céleri et la crème fraîche épaisse et vous poursuivez la cuisson pendant une dizaine de minutes. Maintenant, vous pouvez poivrer, goûter et rectifier l'assaisonnement en sel si nécessaire, bien évidemment. Voilà, vous avez terminé. Il ne vous reste plus qu'à servir dans des bols et n'oubliez pas, comme moi, de parsemer d'un peu de persil ciselé. Et là, je vous assure que vous allez être étonné par le résultat. C'est carrément succulent. Et vous avez compris que cette recette est simplissime. Alors franchement, ce serait dommage de se priver. Je peux vous faire une dernière confidence, Jacqueline ?
Allez-y.
Vous savez quoi ? J'en ai repris une deuxième fois tellement c'était bon. Et je suis sûr que vous ferez de même quand vous aurez goûté à cette très jolie recette. Voilà, Jacqueline, je sais que je peux compter sur vous pour savourer cette soupe. Et quand vous l'aurez fait, à ce moment-là, vous pourrez me faire une confidence en me disant que vous aurez adoré. Enfin, je l'espère. Je vous dis au revoir, bonne cuisine à tous et à très bientôt.
Merci Bruno, toujours au top. Alors confidence pour confidence, j'adore aussi les soupes.
Ah ouais, moi je me régale avec
ça. Je n'avais jamais préparé celle-ci.
Et... faites-le, vous allez voir, c'est superbe.
Bon, ce qui compte aussi, c'est la façon dont vous nous la présentez. Ah. On a vraiment envie de la faire.
Eh ben tant mieux, alors c'est le but.
Merci Bruno, à la
bonne
semaine
émission.
Prochaine.
À la
Merci.
Semaine prochaine. Bonne émission.
Merci. IDFM Radio et c'est l'économie en direct consacrée ce matin à CY Transfer avec à mes côtés Quentin Bonnefond, responsable développement et relations internationales de l'EUR Humanité Création Patrimoine, Isabelle Hofkens, chef de projet Eduquette et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer, coordinatrice du programme CY EdTech Labs, Céline Bertin, responsable marketing et communication de CY Transfer. Et sans plus tarder, Quentin Bonnefond, je me tourne vers vous. Peut-être quelques mots sur votre parcours, Quentin. Je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs.
Oui, merci Jacqueline. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Quentin Bonnefond. En termes de formation, j'ai une licence en langues étrangères appliquées, anglais, allemand, et un master trilingue en coopération internationale et communication de Grenoble. Et j'ai eu plusieurs types de travail, mais j'ai été essentiellement responsable adjoint de l'espace Campus France à l'ambassade de France à Berlin, donc en Allemagne, ce qui a été mon premier passage dans l'universitaire au niveau professionnel. Et quelques années après un petit passage dans le privé, je suis arrivé à CY Cergy Paris Université en tant que chargé d'ingénierie de projet de recherche dans le service d'Isabelle Hofkens, ici présente donc à l'époque. Et depuis un peu plus d'un an, je suis effectivement responsable relations internationales et développement à l'EUR Humanité Création Patrimoine.
Alors cette EUR, Humanité, Création, Patrimoine, existe depuis la création de CY ou bien c'était...
Alors non, CY, le nom CY a été créé en 2020, mais l'université date de 1991 à l'époque, donc l'université de Cergy-Pontoise. Les écoles universitaires de recherche, donc le cycle EUR, ça a été créé en 2007 dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, donc cette politique publique d'innovation, d'investissement pour l'enseignement supérieur et la recherche. L'idée étant d'associer des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche, avec un accent mis sur une forte dimension internationale et aussi pour mettre en place en France le modèle qui est reconnu dans d'autres pays du monde des graduate schools, c'est-à-dire en rassemblant les formations de master et de doctorat avec des laboratoires de recherche. Donc notre EUR a déposé son projet en 2017 lors de la première vague d'appel. Donc c'est un appel à projet organisé par l'Agence nationale de la recherche qui gère les fonds de l'État. Les projets durent 10 ans et notre EUR a été sélectionné, donc a été lauréate en 2017 pour un début des activités en 2018. Donc elle s'intitule Humanité, Création, Patrimoine au sens large et elle s'organise autour d'un consortium hybride et riche, composé en fait de deux composantes en sciences sociales et humaines de CY Cergy Paris Université, donc langue, études internationales et lettres et sciences humaines, et également quatre écoles supérieures dans différents domaines.
Oui, on en parlera tout à l'heure des quatre écoles. Je voudrais qu'on reste sur le UR, en tout cas sur sa méthodologie, puisque je crois qu'elle est assez innovante. Enfin, vous venez de nous en dire quelques mots.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est cette méthodologie de recherche par le projet, donc ce qu'on appelle en anglais « practice-led research », qui est assez développée dans les pays anglo-saxons, mais encore assez balbutiante en France. Donc, cette méthodologie, elle permet en fait d'associer surtout la recherche et la pratique, et permet en fait aux praticiens déjà reconnus dans leur champ de pouvoir mettre un pied dans la recherche et de pouvoir obtenir un doctorat.
C'est une sorte d'apprentissage ?
Alors pas forcément, parce qu'on a quand même un large panel de doctorants qui sont déjà en poste depuis plusieurs années, qui sont reconnus, mais qui en fait vont être intéressés par la recherche et aussi parce qu'un doctorat peut leur apporter plusieurs choses, notamment ça va leur permettre de combler le fossé qui peut exister avec une forte légitimité autour des sciences du patrimoine. Et le doctorat est aussi un passeport pour une carrière internationale. Certains pays vont demander absolument un doctorat, alors qu'un architecte en France n'a pas forcément un doctorat, par exemple.
D'accord, oui, je comprends. Oui.
Et également, il y a un manque de formation existante en France qui va permettre aux praticiens de ne pas abandonner leur pratique tout en faisant de la recherche. Oui, donc on comble ce fossé et également on va permettre avec la Graduate School de diversifier cette offre en création et patrimoine.
Alors c'est l'EUR Humanité, j'ai pu voir que c'était avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine et du ministère de la Culture, du CNRS également. C'est important que ces institutions vous soutiennent.
Alors oui, dans le sens où on a besoin aussi d'une légitimité institutionnelle, et le ministère de la Culture l'apporte, le CNRS également, ils font tous montre d'une expertise très reconnue dans ce champ-là, et ce sont les acteurs principaux dans ce domaine, donc c'était important effectivement pour nous d'inclure ces acteurs institutionnels dans notre projet de base, et donc ils nous soutiennent, donc ils sont pas dans les formations directement, mais on a leur soutien, et ils font partie du comité de pilotage que nous organisons plusieurs fois par an.
Alors, on revient sur la méthodologie, hein, puisqu'elle se fait par le biais de conférences, d'ateliers, de visites culturelles, de sites clés, c'est ça ?
Alors oui, en fait, on va dire que donc nous avons 6 spécialités dans notre doctorat, donc qui sont reliées à nos écoles. Est-ce que je peux peut-être
je vous en prie, voilà. Bien sûr.
Ces 4 écoles avec lesquelles nous travaillons, donc on est avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, l'École nationale supérieure de paysage de Versailles également. Nous avons l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy et l'Institut national du patrimoine. Et avec ces 4 acteurs et les composantes en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université, nous avons développé 6 spécialités de doctorat par le projet, c'est-à-dire les arts, surtout visuels, le paysage, l'architecture, la création littéraire, la conservation-restauration des biens culturels et les études patrimoniales. Donc nous avons des doctorants dans ces différents champs qui vont rédiger leur thèse au cours des 3 ans minimum de doctorat, ou ça peut être aussi plus, tout également en développant un projet pratique lié à leur discipline. par exemple, en architecture, ça peut être une maquette,
oui.
Par exemple, ou alors en art, ça peut être une exposition. Donc, on a toujours le rendu d'une thèse manuscrite avec également un projet. Et nous avons aussi un double encadrement obligatoire de nos doctorants, c'est-à-dire par un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, donc de façon classique académique, et également un encadrant professionnel reconnu dans le champ concerné.
Oui, j'ai compris qu'il y avait cette association entre un doctorant et puis un professionnel dans lequel le doctorant voulait se spécialiser.
Tout à fait.
Comment ces doctorants sont-ils sélectionnés? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Comment ça se passe?
Alors, depuis quelques années, et le doctorat par le projet qui fonctionne plutôt bien, nous avons beaucoup de candidatures. Mmh. Mais en fait, nous avons une campagne annuelle donc un appel à candidature qui est lancé. Donc, c'est actuellement en cours. Ça dure 6 semaines, de mars à avril à peu près. Donc là, c'est jusqu'au 18 avril cette année. Nous avons une plateforme de candidature et les doctorants, les candidats déposent un projet scientifique assez précis dans une discipline concernée et expliquent pourquoi ils aimeraient donc postuler à ce type de doctorat. Et nous avons ensuite une commission d'admissibilité qui se réunit, plus des auditions au mois de juin. Et à l'issue de tout ce processus, nous avons un taux d'admission environ de 15-20%, donc ça reste assez sélectif et exigeant. Mmh. Et en tout cas, il y a quand même beaucoup de demandes. Donc nous avons parfois 80-100 demandes dans l'année, ça peut arriver, parfois 60, mais en général, c'est quand même assez dense. Et nous avons la chance d'avoir des doctorants absolument passionnants et brillants.
Très bien. Est-ce qu'il y a une transversalité avec d'autres cursus ou est-ce que les doctorants eux-mêmes peuvent devenir des professionnels, les professionnels des doctorants? Est-ce que c'est...
Alors, nous avons plusieurs profils. On a une partie qui sont déjà en poste, donc qui ont quand même déjà parfois, oui, 15-20 années d'expérience professionnelle. Nous avons d'autres qui sortent d'un master, qui n'ont pas encore cette expérience-là, mais qui se dirigent vers la recherche et ils aiment justement cet aspect pratique de notre doctorat. Donc, on a vraiment plusieurs profils différents. Donc, oui, on essaie en tout cas de toujours privilégier une transversalité des choses et nous avons aussi des séminaires doctoraux une fois par semestre qui permettent aussi aux doctorants de se rencontrer et de créer une certaine émulation.
Oui.
Entre les différentes disciplines autour de notre thème principal, les humanités, création et patrimoine.
Alors, tout à l'heure, vous avez voulu citer le nom des écoles, et parce que moi, je vous parlais de conférences, d'ateliers, de visites culturelles. Donc, ce sont ces écoles qui proposent ces sites, enfin ces visites.
Alors, ces écoles ont leur propre fonctionnement, mmh, et leurs événements sont aussi ouverts à ces doctorants. Nous proposons des événements dans les séminaires doctoraux que nous organisons. Donc, nous essayons d'ouvrir, en fait, à tout public, en fait, ce qu'on peut faire. Et nous avons également, en termes d'événements, lancé l'an dernier une Summer School. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut en parler.
Oui, on peut en parler.
Donc, cette Summer School, qui est donc une Summer School internationale sur les sciences du patrimoine, nous l'avons organisée l'an dernier dans les locaux du campus Versailles, qui est en fait un pôle d'excellence des métiers d'artisanat d'excellence. Ça se situe dans les écuries du roi face au château de Versailles, donc ce sont des locaux,
oui,
assez prestigieux.
C'est magnifique, oui.
Voilà. Et nous tenons donc l'université d'été en anglais. Ça dure une semaine, 10 jours à peu près. Et là, nous organisons en fait, nous faisons appel à plusieurs intervenants professionnels et également à nos doctorants par le projet, qui vont à la fois animer des ateliers de recherche par le projet dans différentes disciplines et les conférenciers vont, en tout cas, présenter certains sujets de leur réflexion. Et nous avons aussi, bien sûr, une visite du château de Versailles parce que ça reste quand même un lieu culturel très fort en France et dans le monde entier. Et aussi une visite du potager du roi.
Bien sûr,
qui est dans les locaux de l'École nationale supérieure de paysage, qui est un de nos partenaires.
Oui, avec le château de Versailles, vous regroupez un peu toutes les...
Voilà, tout à fait. C'est un haut lieu du patrimoine en France.
Oui.
Et nous avons aussi la chance de travailler en étroite collaboration avec le campus Versailles, dont l'équipe est formidable, et qui va aussi cette année faire découvrir, au moyen d'ateliers pratiques, certains métiers d'artisanat. Et donc les participants pourront aussi voir l'aspect pratique de l'artisanat et pas seulement la théorie développée dans des conférences, par exemple.
Alors, nous avons bien compris que nous sommes dans la recherche. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous présenter de recherches qui ont pu aboutir par rapport à ces doctorants et ces professionnels?
Alors, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas forcément une com, il y en a tellement que parfois on s'y perd un petit peu dans tous les doctorants, mais qu'on apprécie tous, bien sûr.
Mais peut-être chose que vous avez apprécié et retenu.
Alors, on a, par exemple, eu l'exemple d'un doctorant qui est conservateur du patrimoine, qui a organisé une grande exposition sur le VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie, au MUCEM à Marseille, qui est un grand musée. Nous avons ce genre d'exemple. Nous avons aussi, en exemple un peu plus originaux, nous avons également un doctorant en création littéraire qui, plusieurs de ces projets, en tout cas, en développe un en particulier qui est en fait la demande de façon anonyme que des personnes lui envoient par carte postale, donc anonyme, la plus grande honte de leur vie. Je crois qu'il a reçu plusieurs centaines de cartes postales à ce propos. Et je crois qu'il veut en faire un ouvrage, un livre, quelque chose pour mettre en lumière ces hontes humaines qu'on a tous plus ou moins ressenties, pour voir un petit peu un panel original. Donc ça peut vraiment avoir plusieurs aspects.
Ah oui, il faudra nous tenir au courant quand cet ouvrage paraîtra. Moi, je voulais m'attacher toujours dans cette idée de cas concrets, par exemple aux sciences du paysage.
Oui.
Donc là aussi, est-ce que vous avez un exemple à nous citer ?
Alors, par exemple, en paysage, nous avons un doctorant qui travaille sur les systèmes de parcs du paysagiste Olmsted, qui en fait a fait Central Park à l'époque, et donc comment la réception de ces parcs s'est déroulée en Europe, donc il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est une thématique, alors que moi-même je ne maîtrise pas, je n'ai pas cet aspect scientifique, mais qui en tout cas est assez prometteur, et on essaye de voir comment l'humain a pu envisager de modeler un paysage d'une certaine manière, pourquoi, comment, et quelle influence ça a pu avoir dans d'autres pays également.
Ce qui est intéressant dans votre description, c'est que au fond, c'est l'innovation et les traditions qui se rejoignent. J'ai eu la chance de visiter le potager du roi et j'y ai découvert des astuces qu'avaient nos ancêtres pour conserver notamment les produits au frais, vous savez, avec des blocs de glace. Enfin voilà, j'avais trouvé ça assez astucieux. Donc voilà, je trouve que c'est une belle... enfin, votre projet me plaît beaucoup. Donc... on en a parlé avant que l'émission commence. Ce qui m'avait attiré aussi, c'est ce mot humanité qui m'a tout de suite fait penser à l'expression qu'on utilisait sous la Renaissance, faire ses humanités. Et je pense que c'est une belle approche pour rejoindre votre UR.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un anglicisme, les humanities qui sont utilisés dans les pays anglo-saxons. Ça permet en fait de regrouper en France ce qu'on appelle les sciences sociales et humaines. Donc c'est un terme qui est devenu un peu courant en France dans le monde universitaire et qui permet de regrouper tout cet aspect-là. Et on a ajouté aussi création et patrimoine pour pouvoir jumeler aussi toutes nos disciplines.
Alors, donc nous avons bien compris que vous avez malgré tout beaucoup de candidats qui postulent pour ces formations, mais vous avez quand même des besoins. Quels sont-ils ?
Alors nous avons un besoin, je pense, de visibilité aussi, toujours de diffuser un peu plus d'informations. Oui. Nous avons également ouvert un Master 2 Patrimoine et Création dans le cadre de la Graduate School qui est en train d'être mise en place à la rentrée, la dernière rentrée en 2022. Donc l'appel à candidature aussi est ouvert. Donc je pense que c'est un besoin essentiellement de visibilité, également de communication sur la Summer School qu'on organise. Donc c'est dans tous les réseaux actuellement. Et... je pense que c'est essentiellement ça, les besoins aujourd'hui. On a une petite équipe que je remercie à l'antenne puisqu'ils sont vraiment formidables. Voilà, c'est très ambitieux, très exigeant, c'est très passionnant. Mais il faut également que tout soit bien réuni autour de nous, que nos partenaires qui sont déjà là continuent d'être là et qu'on puisse avoir encore plus de visibilité pour nos futures actions. Puisque le programme dure 10 ans.
Oui.
Et nous en sommes
donc
à 5 ans.
2028, hein, si
voilà.
J'ai bien suivi.
Tout à fait. Ouais. En 2023, nous arrivons donc à la moitié. Et on va voir comment les choses évoluent. Mais dans l'idée, effectivement, c'est au moins continuer sur notre lignée, avec toujours développer encore plus d'activités, plus d'événements, plus d'émulation en fait autour de toutes ces thématiques qui en fait ont quand même un impact assez fort en France et qui sont assez prometteuses.
Est-ce que ce projet arrivé en 2028, vous avez le souhait qu'il soit reconduit? Il peut être reconduit ou pas du tout? Où il sera...
Alors, si je pouvais faire une liste de cadeaux Père Noël, je demanderais effectivement que ce soit reconduit. Mais c'est un programme national. Nous ne savons pas encore si les UR seront prolongés. Mmh. Donc là, on est actuellement, on sera bientôt à l'évaluation. Donc on a à peu près 29, je crois, EUR qui ont été lauréates en 2017, dont la nôtre. Mmh. Et donc, toutes ces EUR vont avoir une évaluation à mi-parcours pour ensuite continuer la deuxième tranche. Et nous ne savons pas encore, le ministère n'a pas encore décidé, en tout cas, sur le futur de tout ça. Mais c'est vrai que vu toutes les jolies initiatives qui se profilent et toute la dynamique qui a été impulsée depuis 5 ans, nous aimerions vraiment que ça puisse se poursuivre également.
Oui, j'imagine, parce que sinon c'est une vraie angoisse de se dire que ça va s'arrêter, ce qui est acquis sera acquis.
Mais... Oui, c'est un peu le jeu des appels à projets, mais c'est vrai que dans l'idée, on verra si le ministère propose peut-être une forme plus pérenne de ces organismes-là, on ne sait pas encore. Mais dans l'idée, ce serait vraiment une belle idée.
Alors, rappelez-nous cette Summer School de juillet 2023, quand démarre-t-elle exactement?
Alors, les dates sont encore pas tout à fait arrêtées, mais ce sera entre le 4 et le 12 juillet, à peu près, donc dans les locaux du campus Versailles. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Nous avons une adresse mail dédiée, c'est sur la page également de l'UR, sur le site de CYSRJ Paris Université, et aussi chez nos différents partenaires. Donc, il faut simplement postuler. Nous on observe le profil scientifique du candidat, on voit si justement ça correspond à la thématique de la Summer School et voilà, on attend le plus de monde possible, on les attend nombreux de différents pays parce que ce sera entièrement en anglais et nous appuyons également sur le réseau Utopia qui est cette alliance d'universités dont aussi fait partie CYSRJ par université et la communication est aussi lancée dans ces universités européennes. L'an dernier nous avions des étudiants de ces universités. Donc nous avions aussi une interculturalité qui était vraiment très agréable et très positive dans chacune des conférences et des ateliers pour justement, on avait des Italiens, des Portugais ou pareil les thématiques du patrimoine sont très liées aussi dans leur pays.
Le monde entier.
Dans l'idée également, voilà, tout à fait, c'est ça. Oui, tout à fait.
Donc vous attendez combien de participants ou combien en espérez-vous?
Idéalement, nous aurions une bonne vingtaine de participants. Puisqu'on est dans un groupe relativement réduit, mais pour aussi conserver une qualité des échanges, on est sur un idéal de 20-25 candidats, effectivement, pour que, comme je vous dis, donc la qualité des échanges soit maintenue. Et que on compte aussi beaucoup sur l'effet de groupe. L'an dernier, ça s'est vu. Donc on avait vraiment plusieurs profils et plusieurs âges, plusieurs expériences différentes. Et on a pu observer un vrai effet de groupe au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'ils en ont gardé un bon souvenir. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et il y a eu des retours seulement positifs. Donc on est très contents. Donc on voudrait vraiment renouveler ça cette année en ajoutant justement cet aspect pratique de découverte des métiers d'artisanat par le campus Versailles.
L'année dernière aussi, c'était sur le campus de Versailles.
C'était également sur le campus de Versailles, oui, tout à fait.
Si vous aviez un conseil à donner, Quentin Bonnefond, après nous avoir expliqué toute cette belle approche.
Un conseil auprès de qui?
Les doctorants, les professionnels, ceux qui nous écoutent.
Pour les doctorants, je dirais essentiellement que le projet scientifique doit effectivement être assez bien défini, assez précis, que les encadrants, même s'ils sont pas encore sûrs d'être encadrés par ces gens-là, soient au moins identifiés et qui témoignent d'une vraie approche innovante, différente et qui sortent un peu de l'état de l'art actuel et qui proposent quelque chose d'assez nouveau, en fait, qui va intéresser le jury et qui va contribuer à la richesse de la recherche dans leur discipline.
Oui, ça peut être d'ailleurs pour eux l'opportunité de pouvoir exprimer une vraie recherche à laquelle ils ont pensé.
Absolument, oui. Voilà, on est tout à fait ouvert à la créativité, tant qu'évidemment scientifiquement il y a des très solides bases. Mais on a souvent des exemples tous les ans d'auditions assez formidables, et on est vraiment ravis d'avoir ces doctorants avec nous. Et j'espère qu'ils le sont également.
Bien, écoutez, c'est le seul mal qu'on vous souhaite. Hein. Merci Quentin Bonnefond pour la présentation de l'EUR Humanité, Création, Patrimoine, qui vise une nouvelle fois l'excellence académique. Et on retiendra aussi cet enjeu de participer à la construction et l'évolution de la société de la connaissance. Merci.
Merci Jacqueline.
Un peu de musique avant de poursuivre notre émission avec Isabelle Hofkens. On marque une pause. À tout de suite.
Puisque les gens se voyaient autrement, c'est différent que j'ai choisi d'être. Les liens du sang s'envolent avec le temps, auprès du grand, là où les étoiles naissent. Des airs de sable emportés par le vent, là où la neige finit par apparaître. J'ai lu des fables qui mentaient aux enfants. Petit déjà, j'ai su le reconnaître. Je suis pas fait pour la foule, c'est ce que je pensais. Puisque ce monde est fou, pourquoi se mélanger? J'ai pris un bain de foule pour me changer les idées. Puisque je suis fou de vous, autant se mélanger. Mélanger.
Mélanger.
Mélanger.
Mélanger.
Du rire aux larmes, j'ai vu les sentiments aller venir, s'enfuir par la fenêtre. Même les armes ne blessent pas autant qu'un homme meurtri qui a perdu la tête. Des airs de sable emportés par le vent, là où la neige finit par apparaître. J'ai lu des fables qui mentaient aux enfants. Petit déjà, j'ai su le reconnaître. Je suis pas fait pour la foule, que je pensais, puisque ce monde est fou. Par le vent, là où la neige finit par apparaître. J'ai lu des fables qui mentaient aux enfants. Petit déjà, j'ai su le reconnaître.
Se mélanger par Matt Pokora. Merci d'être resté avec nous ce matin à l'économie en direct sur IDFM Radio. Nous découvrons des nouvelles composantes de CY Transfer avec toujours à mes côtés Quentin Bonnefond, responsable développement et relations internationales de l'EUR Humanité Création Patrimoine, Isabelle Hofkens, chef de projet Eduquette et de l'ingénierie de projet pour CY Transfer, coordinatrice du programme CY EdTech Labs, Céline Bertin, responsable marketing CY Transfer. C'est pas toujours simple à dire, CY Transfer. On enchaîne avec vous, Isabelle Hofkens. Donc, en décembre, j'avais eu le plaisir de vous accueillir pour nous présenter ce fameux programme EdTech Labs. Je vous laisse peut-être nous en rappeler les grandes lignes et puis votre rôle en tant que coordinatrice.
Alors, c'est un programme d'accélération dédié aux startups de la filière EdTech, donc sciences de l'éducation. Ce sont des startups qui proposent des outils à destination des classes, quel que soit le niveau, primaire, secondaire, enseignement supérieur. Et c'est souvent des outils numériques pour des apprentissages différents. Et donc, on a dupliqué un programme qui existe à Londres, qui existe depuis 5 ans. Ils ont accompagné à peu près 400 startups. Et donc, nous, on est sur notre première session, là, qui va démarrer le 6 avril. On est en pleine finalisation de la sélection. On a reçu 17 dossiers de candidature.
Ah oui.
On était parti sur l'idée de faire une première petite session à 5 startups. Au final, on va en avoir une douzaine.
Donc un vrai succès.
Un vrai succès avec des beaux projets, des beaux produits. L'avantage, c'est qu'il y a tous les profils. On a de l'entreprise pas encore créée à de la PME où il y a déjà 48-50 personnes employées. On a aussi tout type de projet, que ça s'adresse aux maths, aux langues, ça s'adresse à des formations de formateurs, et ça s'adresse à tous les cycles de niveau. Donc je pense que effectivement on a fait un beau panel.
Donc
le programme se tiendra du 6 avril au 6 juillet puisque c'était 12 semaines. Et donc en fait, on leur propose trois accompagnements. Un pilier 1 qui est un peu l'accompagnement business, qui est un peu sur la création d'entreprise, comment un peu investir, faire des levées de fonds. Ça, c'est plutôt nos collègues de Londres qui vont venir faire ces masterclass. On a un pilier 2, alors parce que Londres ne peut pas dupliquer totalement son programme puisqu'il y a des spécificités françaises.
Bien sûr.
De la filière. Donc en fait, le pilier 2, c'est vraiment toutes ces spécificités françaises qui vont être assurées par des partenaires de la filière. Donc on a EdTech France qui va venir faire une intervention. On a l'INPI pour tout ce qui est protection des logiciels et protection de la marque.
De la marque, oui.
Voilà. Mmh. On a aussi la BPI qui va venir nous faire qui va leur présenter en fait tout le panel d'accompagnement à la création d'entreprise et au développement d'entreprise. On va leur faire aussi un petit peu de masterclass sur la RGPD et la gestion des données personnelles, puisque ce sont des outils numériques qui vont s'adresser à des élèves. Donc il y a des LAI, ça récolte des infos. Donc ça c'est vraiment, et puis aussi la grosse spécificité française de cette filière, c'est que les outils numériques pour pouvoir rentrer dans les écoles doivent avoir une certification qui s'appelle la certification GARE, et donc la plupart ne le savent pas puisque ils ont une idée d'outils et ils pensent que c'est assez simple à développer.
GARE, vous l'écrivez comment?
GARE.
Ouais, et un acronyme.
Je sais plus si c'est un acronyme ou sans doute. Et donc c'est vraiment toutes les spécificités techniques qu'un outil numérique doit avoir pour pouvoir rentrer dans les établissements.
D'accord.
C'est imposé par le ministère.
Oui, par rapport à toute la cybersécurité.
Oui, tout à fait, oui. Et puis certains protocoles pour être adaptables avec les machines qui sont achetées dans les marchés,
des choses
comme ça. Et le tout dernier pilier qui est notre spécificité à nous, Sergi, par rapport au programme londonien, c'est un accompagnement scientifique. On a nos enseignants-chercheurs des 4 laboratoires de sciences de l'éducation et notre laboratoire d'intelligence artificielle qui vont en fait porter un diagnostic sur les produits pour pouvoir aider les entrepreneurs à les améliorer, puisqu'ils sont en phase de développement. C'est des startups qui au maximum ont 2 ans d'ancienneté. Et ça va permettre, on va faire des tests avec les élèves, et ça va permettre d'améliorer le produit pour pouvoir le diffuser plus largement.
Donc là, vous êtes complètement dans la logique de CY Transfer qui agit comme un porteur d'affaires.
Oui, alors on est vraiment dans la mission première de CY Transfer, qui est de faire le lien entre les enseignants-chercheurs qui développent des technologies et le marché qui a des besoins.
Complètement.
Voilà, et on essaye de réunir les deux pour faire en sorte que la collaboration se passe bien et qu'il en sorte quelque chose qui sera utile pour le marché.
Et de la même façon que il y a une réciprocité, puisque on sait que CY Transfer peut apporter sa propre expérience auprès des entreprises.
Nous on est aussi là effectivement
pour développer des projets.
Oui, on est là pour les accompagner. Donc un programme de 12 semaines pour certains ça sera pas suffisant.
Bien sûr.
Mais ça met le pied à l'étrier et ça a un petit effet booster. Et après effectivement on pourra d'une autre manière hors programme continuer à les accompagner avec du co-développement si nos laboratoires sont intéressés sur le produit et la thématique qui se cache derrière le produit.
Les candidats qui ont postulé viennent de toute la France.
Viennent de toute la France et même de pays francophones.
Ah oui, très
voilà,
bien.
On s'est en fait on s'est volontairement pas fermé à la région Île-de-France.
Oui.
Il va y avoir une journée d'accueil en présentiel, une journée de clôture en présentiel, et après tout le reste se fait en distanciel puisque ça va être soit des cours qui vont être faits en visio, et il y a même une certaine partie qui va être en capsule vidéo. Donc en fait asynchrone, ils pourront le faire quand ils le voudront, ça sera mis à disposition. Il faudra juste qu'entre telle date et telle date ils aient visionné les 6 capsules vidéo pour pouvoir accéder au pilier suivant.
Bien sûr, oui, oui. Alors Isabelle, déjà, félicitations parce que vous en parlez très bien. Vous vouliez aussi nous parler de, à propos de l'expertise et des compétences de plusieurs laboratoires de CY. Donc, il y a le laboratoire IDHN. Dites-nous ce que signifie.
Alors IDHN, c'est pas un laboratoire, c'est un regroupement de laboratoires.
Ah, très bien.
Alors IDHN, c'est Institut des humanités numériques.
Ok.
Donc on est, j'ai pris les thématiques dans la lignée de l'UR, comme ça, ça fait un thème un petit peu commun. Donc c'est un institut qui regroupe 4 laboratoires de l'université. Le laboratoire Agora, qui est un laboratoire sur la littérature, archéologie, enfin architecture, enfin tout ce qui en tient, qui est plutôt littéraire, plutôt un peu patrimoine. Ensuite, on a le LT2D, qui est très sur l'analyse des discours. On a également PLACE, qui est un laboratoire de géographie.
PLACE au pluriel.
Oui, tout à fait. Et le laboratoire ETIS, qui est notre laboratoire d'intelligence artificielle, informatique, robotique. Et donc, dans humanité numérique, on a effectivement, comme le disait Quentin, ce mot humanité qui couvre toutes les sciences humaines et sociales. Mmh. Et on y ajoute ce mot numérique qui, en fait, fait le lien entre ces sciences humaines et sociales et les technologies informatiques. Et électroniques qui vont permettre de des fois systématiser certaines analyses. Donc et la mission de CY Transfer, c'est à partir des projets menés dans ces laboratoires-là, voir au niveau des résultats de recherche ce qui peut être transposable à d'autres et qui pourrait peut-être servir à d'autres.
Bien sûr, bien sûr.
Donc j'ai pris quelques exemples.
Je vous en prie. Je voulais juste préciser que le numérique, enfin aujourd'hui c'est un mot qui est devenu, qui est dans le langage courant, c'est vraiment devenu ce que la sociologie appelle un fait social total. Hein. Il est plus seulement à l'intérieur de nos ordinateurs ou imprimantes. Il a pénétré vraiment tous les pans de la société.
Oui, tout à fait. Si on faisait un bond en arrière de 10-15 ans, les sciences humaines et sociales n'auraient pas été accolé au mot numérique. C'était presque antinomique. Et là effectivement ça reste une technique et un procédé supplémentaire à la disposition de ces enseignants chercheurs.
Et c'est là où on voit que cette révolution numérique a des effets très concrets sur l'école et les espaces éducatifs.
Tout à fait.
La preuve là avec ce que vous nous démontrez. Donc, je vous laisse nous expliquer les cas concrets auxquels vous avez pensé.
C'est quelques-uns parmi tant. Par exemple, côté Institut des humanités numériques, il y a 2-3 projets qui ont été développés et qui peuvent déborder sur d'autres choses si les gens s'en saisissent.
Oui.
Donc on a notamment par exemple une enseignante chercheuse qui a travaillé à l'occasion du centenaire de la guerre mondiale sur les testaments des poilus. Donc en fait elle a créé une plateforme collaborative de transcription collaborative qui met en ligne un certain nombre de testaments qui les ont retranscrits, qui les ont numérisés. Donc ça a déjà un effet de pérennisation des fonds documentaires. Oui. Ça évite de perdre les choses. Et puis, ça fait que cette plateforme collaborative qui a été faite pour les testaments des poilus, maintenant, cette équipe-là de Cergy, elle a les compétences pour pouvoir effectivement asseoir une plateforme collaborative sur n'importe quel autre sujet. Voilà,
je comprends.
De transcription collaborative.
C'est
un travail qui a duré pendant 3 ans avec différentes subventions grâce à la mission du centenaire, aux missions du centenaire qui ont été faites, mises en place par le ministère. Donc ça permet, ces plateformes de transcription collaborative permettent d'accéder à des images numérisées, permettent de transcrire des textes. C'est-à-dire qu'on a des documents qui sont manuscrits et donc on les retranscrit parce que des fois c'est pas facile à lire. On encode les transcriptions à l'aide de balises. Là, on est sur le côté numérique des choses pour pouvoir faire du requêtage, pour pouvoir faire de la recherche. Et puis on enrichit, tout à chacun enrichit les notices biographiques et historiques sur les poilus, les lieux, les régiments. Donc c'est très collaboratif. Mm-hmm. Donc il y a des protocoles pour valider les informations qui vont être déposées, pour faire en sorte que ce soit homogène, que ce soit facilement travaillable. Donc ça c'est une vraie compétence que l'institut peut apporter et c'est quelque chose qui est duplicable.
Et est-ce que ces plateformes sont accessibles à n'importe qui?
Oui, ou c'est... oui, tout à fait. Elles sont ouvertes. C'est vraiment en accès libre.
Oui, parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui s'intéressent.
Oui,
c'est
vraiment en accès libre.
Ce pan de l'histoire.
Oui, et on est vraiment sur ces humanités numériques. On a souvent cet aspect ce que nous on appelle dans notre jargon l'open access, c'est-à-dire que on est vraiment là pour de la diffusion aux citoyens. C'est-à-dire que c'est de la recherche. Pointu souvent, on allie avec des techniques pointues aussi, mais l'objectif c'est que tout le monde puisse s'en emparer.
C'est ça, c'est de vulgariser, comme on disait avec Quentin tout à l'heure, savoir vulgariser ce savoir.
Ouais. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a une enseignante-chercheuse qui a travaillé sur la représentation de l'Europe dans les médias européens en ligne. Donc en fait, c'était sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on pouvait voir sur les plateformes internet. Et donc en fait, il y a des techniques qui ont été élaborées. Et donc ça a permis d'aller au-delà de ça. Et on a un chercheur qui travaille sur l'analyse des réseaux sociaux et il travaille notamment sur l'analyse des discours de haine, des menaces en ligne, et ça lui a permis par exemple de faire des cas d'études de veille autour des JO pour pouvoir prévenir des risques de failles de sécurité, pouvoir prévenir des menaces en fonction de tout ce qui pouvait être dit sur les différents réseaux sociaux. Dans la même lignée de l'analyse du discours et de l'analyse des réseaux sociaux, il a travaillé sur de la e-réputation. Il a fait un travail avec la mairie de Cergy sur comment était perçue par les citoyens et par les habitants la gare de Cergy. Et donc du coup, ça permet, en fonction en analysant le discours, ça a permis d'apporter en fait une aide aux décideurs publics quelle était la réputation du lieu et quelles étaient les préconisations pour pouvoir améliorer cette réputation.
Voilà. Ce que vous me dites là, par exemple, je repense au JO. Ce sont des éléments dont doivent s'emparer aussi tous les services de sécurité, parce que ça doit les interpeller.
Oui, tout à fait. Ça. Alors, il y a certains projets.
Eux-mêmes ne font-ils pas déjà ce travail?
Alors, il y a certains projets qui sont menés en lien avec avec la gendarmerie nationale, avec la police nationale. On a des projets en commun avec le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, qui est à Pontoise. On a des projets communs sur l'analyse des discours, voilà. Donc, ça fait partie des choses qui existent déjà. Mais donc, il a travaillé sur les discours de haine, les menaces en ligne, sur l'analyse, par exemple, autour de la réputation mais ça peut être totalement transposable à de la e-réputation d'une marque à de la veille concurrentielle. Ouais. Enfin, on peut le décliner sur toutes les thématiques qui peuvent exister, quoi.
Doit être un travail pharaonique quand même, parce que compte tenu de tout ce qui existe.
Oui, tout à fait. Alors c'est des gros algorithmes qui tournent. Des algorithmes qui vont récupérer les infos directement. Voilà. Et donc c'est là où le travail effectivement du linguiste et de l'informaticien
se rejoignent
et permettent de faciliter le travail du linguiste.
Oui.
Donc il a travaillé aussi sur ce qu'il appelle lui du scrapping, c'est de récupérer des données en ligne sur tout type de support, vidéo, texte, tweet, tout ce qui peut exister, et donc de l'indexer, de l'hiérarchiser. Et ensuite, de permettre de faire des tableaux de bord avec des métriques, nombre d'utilisateurs, des nuages de mots pour voir quels sont les mots qui reviennent le plus souvent et choses comme ça. Et il a travaillé sur la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, avec l'analyse de tous les tweets. Et en fait, il a fait pendant toute la campagne présidentielle le suivi de l'évolution de son tableau de bord avec les mots qui ressortaient, avec les tendances, les choses comme ça. Et effectivement, et ça peut être déployé sur plein d'autres choses.
Oui, aussi également.
Ça peut prendre la forme d'ailleurs ce à quoi on réfléchit, ça peut prendre la forme d'ailleurs d'un logiciel qui peut être mis à disposition, qui pourrait être mis à disposition des gens, mais là il faut l'habiller en plus.
Oui,
c'est-à-dire c'est pas juste la technique avec le balisage et le codage, il faut aussi après un peu d'ergonomie et un petit
c'est
peu.
C'est ça, le mettre à disposition de l'activité ou de l'établissement qui est directement intéressé par ces informations.
C'est ça, voilà, tout à fait, oui. Donc voilà, donc effectivement, la IDHN, c'est vraiment cette analyse de discours, puisque c'est des linguistes, ou des littéraires, et de les mettre en phase avec l'outil informatique qui leur permettent du coup de dupliquer et d'aller plus vite dans le traitement de données en grande masse, en fait, et de pouvoir les hiérarchiser.
En vous écoutant, Isabelle, je me posais la question, est-ce qu'il là aussi il peut y avoir une transversalité avec avec le projet le UR?
Alors beaucoup d'enseignants, enfin les laboratoires les laboratoires de l'Institut des humanités numériques et le laboratoire héritage dont je parlerai juste après sont des laboratoires qui travaillent avec le UR.
C'est ça.
Ouais. Voilà, ce sont donc, les mêmes personnes en fait.
Ça paraît évident que ça
c'est
soit...
le UR en fait est pour ses doctorats par projet adossé à ces laboratoires-là puisque les doctorants feront leur thèse dans ces laboratoires-là.
Je comprends, très bien. Ça tout s'éclaircit.
Et donc il y a un dernier laboratoire dans cette thématique mais qui fait pas partie de l'Institut des humanités numériques parce que c'est déjà un gros laboratoire, il est multitutelle et donc rajouter une couche avec un institut c'était pas souhaitable. C'est le laboratoire héritage. Donc ça purement patrimoine. Mmh. C'est vraiment patrimoine architecture, archéologie, voilà. Et donc effectivement là aussi il y a des projets qui peuvent être dupliqués ou qui peuvent être hébergés par ce laboratoire. Ce laboratoire a une chaire patrimoine culturel immatériel et développement durable. Ça permet de faire une articulation entre le patrimoine culturel et les objectifs de développement durable. Ils ont notamment dans cette chaire ils travaillent par enquête, ils font des enquêtes sur différents thèmes. Ouais. Une des dernières enquêtes c'était sur les patrimoines culturel immatériel des réfugiés ukrainiens, par exemple, avec quoi ils étaient partis, oui. Parce qu'on parle de
ils peuvent... quand il y a un exode ou
comment se gère aussi l'exode du patrimoine.
Bien sûr.
Il y a aussi des choses. Alors cette chaire, elle est en collaboration avec une chaire UNESCO. Les grandes thématiques de sauvegarde du patrimoine, le déplacement. Alors c'est aussi ça s'intéresse aussi au déplacement des foules. C'est-à-dire on peut travailler d'autres sujets en travaillant le patrimoine. Il y a des choses c'est transversal en fait.
Oui,
et
oui.
Donc du coup, il y a plein de disciplines qui peuvent autour d'une thématique venir se greffer et faire différents points d'entrée du sujet.
Oui, parce que déplacement des foules, ça veut dire aussi réaction de ces foules et ça engendre toute une.
Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça c'est vraiment des thématiques dans lesquelles où quand on dit un sujet. On va avoir plusieurs portes d'entrée fonction de la thématique qu'on va prendre.
Ça relie plein d'autres aspects.
C'est ça, voilà. On a dans le cadre de Héritage un chantier école de fouilles archéologiques à Geninville qui a permis de développer certains outils qui peuvent être transposables ailleurs hein, puisque c'est valable pour ce site-là, mais au final ce sont des outils qui peuvent servir à d'autres. Dans le cadre de ce chantier école, ils ont fait de l'étude de blocs sculptés et ils ont créé en fait un algorithme qui permet de faire de la 3D. Mais une vraie 3D, c'est pas juste un nuage de points avec une texture 2D, c'est une vraie 3D, c'est-à-dire qu'on le temple à Geninville sur lequel ils font des fouilles, et ben en fait ils ont reconstruit en 3D ce temple, et pas que reconstruit en 3D, c'est qu'ils y ont remis des textures et en plus ils y ont remis toute la chronologie en fait.
Oui, toutes les strates
de la chronologie de construction et de la vie du temple, de la dégradation, Donc ça, voilà, c'est un algorithme qui tourne et qui, bon, il sert sur le chantier de Geninville. On peut tout à fait imaginer qu'il puisse servir sur
bien
d'autres
sûr,
chantiers.
Bien sûr.
Et en fait, ils ont aussi travaillé sur la compréhension et la préservation des bâtis antiques dans leur environnement. Donc c'est une discipline qui s'est développée. C'est-à-dire qu'on étudie pas seulement la caractérisation de la pierre qu'on trouve, mais en fait on essaye aussi d'y intégrer des données climatiques, des données temporelles qui font que on comprend mieux l'évolution du bâti en fonction du climat et des choses comme ça et en fonction de la végétation en fait, parce que la végétation permet de donner des indications sur le climat, l'évolution du climat et des choses comme ça. Donc voilà, ce sont des enseignants-chercheurs qui sont très enthousiastes, qui sont passionnés,
très motivés.
Qui sont passionnés et qui ont cette capacité à faire coïncider plusieurs disciplines. Mmh. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et sur des disciplines, enfin, Moi, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, on m'aurait dit archéologie. J'aurais pas forcément pensé qu'il pouvait y avoir un intérêt pour le monde socio-économique. Il y a de l'intérêt scientifique, oui, culturel, mais j'aurais pas forcément imaginé qu'il y avait des outils numériques, que on pouvait développer des choses qui pouvaient servir à autre chose.
Oui, parce que ça peut aussi déboucher sur le tourisme et puis oui, accélérer, enfin en tout cas le rendre plus important. Je pense à des villes dans le Val d'Oise, oui, qui pourraient être intéressées.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors effectivement, toute cette partie un petit peu archéologie, patrimoine, avec un peu d'outils numériques qui permettent de comprendre les choses, ça peut déboucher sur des choses qui vont intéresser le tourisme. On le teste de manière détournée avec notre projet YouMaker.
Oui, voilà, j'avais reçu.
Qui fait des balades géologiques, oui, pour faire comprendre un peu la formation des paysages, mm-hmm, dans le Vexin, avec des maquettes 3D pour comprendre les différentes couches, comment ça s'est passé. Et effectivement, sur un site de fouilles avec des bâtiments, ou même avec des bâtiments historiques, on peut essayer de faire comprendre aux gens l'évolution du temps et comment ça s'est passé.
C'est passionnant de voir. On parlait de tradition, mais voilà, on est dans exactement.
Oui, c'est ça aussi, voilà. Puis on a la chance d'être dans un pays où le patrimoine architectural, les vestiges, enfin les sites de fouilles sont quand même présents. On a de la diversité, il y a de la qualité, et donc effectivement, il faut s'en servir et ces gens sont là vraiment. C'est pas des gens qui sont ancrés dans le passé. C'est-à-dire qu'ils étudient le passé pour pouvoir mieux projeter, en fait. Il y a toujours un retour vers le citoyen au jour d'aujourd'hui qui est important pour eux.
Oui, comme vous disiez, avec un intérêt socio-économique.
C'est ça,
toujours.
Voilà.
Ce regroupement de l'IDHN, c'est spécifique à CY Transfer? Ou est-ce que
ça existe dans beaucoup d'universités, mmh, en fait. Quand il y a des laboratoires qui commencent à avoir un peu l'habitude de travailler ensemble, des fois c'est beaucoup plus facile pour structurer les projets d'avoir une entité un petit peu permettre d'héberger les projets transverses. Voilà. Donc c'est vraiment le cas, hein. Donc l'Institut n'héberge pas de projets d'un seul laboratoire. Elle héberge forcément des projets où il y a au minimum 2 laboratoires d'impliqués.
Isabelle, merci pour c'est vraiment très très intéressant, et puis encore une fois vous en parlez avec beaucoup de passion, donc ça donne envie d'en savoir plus. Donc vos besoins restent aussi de diffuser de l'information sur les savoir-faire. On rejoint un peu ce que nous a dit Quentin Bonnefond.
Oui, en fait on est en phase de diffusion, en fait, un petit peu des compétences et des expertises de nos laboratoires pour que ça trouve écho auprès des gens qui pourraient en avoir besoin. Et puis régulièrement, il faut consulter notre site. On a des offres de postes ou des offres de stages de manière assez régulière.
On a
2 stagiaires actuellement on va le faire en renouvellement assez régulier.
Alors j'ai gardé ce que vous nous aviez dit en décembre aussi. Vous aviez des offres d'emploi à proposer en décembre. Elles sont toujours d'actualité ou pas?
Alors je me souviens plus ce que vous aviez dit en
alors,
décembre.
Alors vous aviez 3 offres de stage pour CY Transfer, ingénieur
alors, les offres
projet.
Les offres de stage sont pourvues. Mmh. On a nos stagiaires qui sont arrivés, qui sont super, ils sont très efficaces, ils sont super gentils.
CY EdTech Labs.
Alors pour CY EdTech Labs, les offres de stage, en fait, on les a pas pourvues et on a mis un tout petit peu en stand-by le temps de voir exactement de mieux cerner le besoin, mais ça va être réactivé très rapidement. On aura surtout besoin du data manager.
D'accord. Ah oui, alors vous aviez besoin d'un business développeur.
Ouais, alors ça on va le recruter en poste fixe.
D'accord.
En CDD, pas en stage, puisqu'on a déjà un stagiaire en fait en business développement. On va très rapidement avoir une fiche de business développeur qui va être publiée sur le site de l'université, et pour CY EdTech Labs, on va avoir besoin très probablement d'un stagiaire en data management.
Très bien. Ben voilà, donc voilà. Les offres d'emploi sont toujours d'actualité. Donc pour postuler, que faut-il faire?
Sur le site de CY Transfer, qui renvoie, en fait, il y a un formulaire en ligne que les services RH de l'université ont mis en place, avec dépôt de lettre de motivation et de CV standard, et ensuite on traite les demandes.
Super. Isabelle, on va donner la parole tout à l'heure à Céline pour le Tekinov, le salon Tekinov. Je crois que vous vouliez juste faire une petite introduction. On l'a fait tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, oui. Hein,
voilà. Donc, merci Isabelle pour votre intervention, puis toute cette belle innovation dans chez CY Transfer. Ne bougez pas, on revient très vite pour parler précisément du salon Tekinov. À tout de suite.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct consacrée à CY Transfer et sa présence également au salon Tekinov. Et je suis toujours en compagnie de Quentin Bonnefond, responsable développement et relations internationales de l'EUR Humanité Création Patrimoine. Isabelle Hofkens, chef de projet éducatif et de éduquette, pardon, de l'ingénierie de projet pour CY Transfer, coordinatrice du programme CY EdTech Labs. Céline Bertin, responsable marketing et communication CY Transfer. Céline Bertin, nous poursuivons cette radioscopie de CY Transfer avec vous. Oui. Donc, vous, votre spécialité, c'est la communication. Vous vous occupez des médias. Expliquez-nous un petit peu votre parcours et puis votre rôle.
Bonjour à tous. Merci de nous accueillir, Jacqueline, sur votre émission. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai rejoint l'université en 2019 à la direction de la recherche. Et ensuite, j'étais responsable, enfin chargée de valorisation et responsable du développement des plateformes de l'université. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe de CY Transfer au moment où la business unit du coup CY Transfer s'est créée. Donc, elle a été créée en septembre 2021, mais vraiment, on va dire, active depuis janvier 2022. Et moi, en fait, mon parcours personnel et professionnel avant d'intégrer l'université, j'ai travaillé dans le monde privé. J'ai commencé ma carrière au sein du groupe Arc International, où j'ai eu l'opportunité, la chance de lancer une marque de verre à dégustation qui s'appelle aujourd'hui Chef et Sommelier.
D'accord.
Voilà, et tout en lançant en même temps un nouveau matériau qui était le quartz. Voilà, c'était voilà. Donc on était vraiment dans j'étais sur un poste de marketing opérationnel
dans l'innovation.
Ensuite j'ai intégré du coup là une école de français langue étrangère qui est l'Alliance française de Paris. Et là j'étais responsable marketing et communication aussi de cette école pendant un peu plus de presque 7 ans. Et je suis devenue maman et du coup je me suis rapprochée de mon lieu de travail et c'est ainsi que j'ai rejoint l'université. Et du coup ce qui est très intéressant pour moi et important, c'est que finalement j'ai eu la chance au sein de mes études et de mon parcours d'évoluer dans un univers public privé qui est très important aujourd'hui dans la mission qu'on accompagne de CY Transfer. Voilà. Ouais. Et du coup ce côté marketing et relations avec les enseignants-chercheurs, où justement on parlait de vulgarisation, enfin essayer de bien comprendre leur expertise, le rendre disponible au monde socio-économique pour que tout le monde comprenne les mots et savoir valoriser en fait ce qu'ils font, ça fait partie de mon travail. Et du coup effectivement participer à des événements comme Techinov, c'est très important pour nous puisque c'est là où on va rencontrer potentiellement des futurs partenaires, des futures entreprises, des start-up, des PME avec lesquelles on va pouvoir collaborer faire collaborer nos laboratoires ou nos plateformes pour mettre à disposition leur expertise du coup pour ces entreprises.
Oui, voilà. Là vous êtes vraiment vous êtes la parfaite interface entre les chercheurs et puis les entreprises.
Voilà, dans mon parcours en tout cas c'est un peu l'ADN. Moi j'ai fait le choix de faire une école de commerce et j'ai fait une école de commerce en 4 ans qui était était un programme ESPEM. En fait j'ai intégré le programme sur concours après le bac et ensuite j'ai voulu faire une 5e année et du coup j'ai intégré l'université de Cergy-Pontoise. À l'époque, ça s'appelait pas CY, Cergy Paris Université, l'Université de Cergy, pour un master en commerce international pour le coup, parce que ce qui était important pour moi, c'était aussi d'asseoir mes compétences en langue, puisque j'ai eu la chance d'apprendre plusieurs langues, de les maîtriser, et du coup, je voulais avoir cette caution-là, et d'avoir cette double casquette, je trouvais que c'était un atout aussi un peu innovant par rapport à d'autres candidats, surtout dans le marketing, où finalement, les portes. Enfin, en tout cas, maintenant, je pense que c'est peut-être plus ouvert, mais moi, à mon époque, il fallait challenger.
Vous êtes très jeune encore. Voilà. Alors donc, CY Transfer sera présent à la journée Techinov, une journée 100% dédiée au business et à l'innovation, le mardi 28 mars 2023. Est-ce que vous avez déjà, donc le but c'est de que vous rencontriez justement de...
Oui, le format de cette journée, donc c'est une journée qui est très intense, qui est vraiment 100% business innovation. Et l'idée en fait, quand on participe à cette journée, on va avoir accès à un agenda où en fait on va pouvoir rencontrer les entreprises ou les partenaires qui se sont inscrits. Donc là on est dans la phase où on rentre en contact avec les gens qui participent à cette journée-là et on va avoir des rendez-vous qualifiés qui dure à peu près 10-15 minutes, si je ne me trompe pas. Voilà,
20 maximum.
Ouais, 20 minutes maximum, où du coup, en fait, la prise de contact, elle est initiée avant, donc on sait qu'on va se rencontrer. Donc, en fait, ça permet d'être très vite sur des sujets précis et de on rencontre vraiment les gens qu'on veut rencontrer, et c'est pas comme un stand, enfin, un salon ouvert
où les gens passent.
Et voilà. Donc là, en fait, on est déjà qualifié. Il y a un catalogue où on a pu exposer notre offre de service, expliquer pourquoi on était là, ce qu'on pouvait proposer en tant qu'expertise. Et du coup, voilà. Donc ça permet d'avoir des rendez-vous quand même assez qualifiés qui nous permettent peut-être de gagner du temps derrière. Et en général, donc l'année dernière, moi j'étais pas présente parce que j'étais en congé maternité, mais Isabelle a pu y participer. J'y étais l'année d'avant. On est à peu près sur une cinquantaine de rendez-vous dans la journée. Du coup, c'est quand même assez intense.
Oui, c'est intense.
Voilà. Donc, nous, on a le projet, souvent, l'équipe s'y rend. C'est aussi l'occasion de rencontrer
vous,
les
vous relayez, je pense.
Oui, ça, et puis selon les rendez-vous aussi, on va un peu s'adapter. L'année dernière, Isabelle, tu complètes si je me trompe, mais on avait eu des rendez-vous quand même très techniques. Donc, on avait pu faire participer un des directeurs de plateforme, du coup, qui a pu apporter des solutions beaucoup plus complètes que nous à notre niveau. Du coup, voilà. Donc, ça, comme tous les rendez-vous sont pris en amont, ça nous permet vraiment de bien préparer ces rencontres.
Oui.
Voilà.
Et là, les rendez-vous sont pris.
Ça a commencé. Là, on commence à prendre les rendez-vous depuis 3 jours. Là, j'irai me connecter tout à l'heure pour voir si les rendez-vous que j'ai demandés ont été acceptés, on m'a sollicité.
C'est un peu comme un dating. Hein.
Oui,
on demande un rendez-vous, l'autre doit accepter. On reçoit des rendez-vous, on les accepte.
C'est l'expression qui m'est venue, le speed dating.
Par contre, du coup, juste pour préciser, sur la cinquantaine de rendez-vous qu'on a sur la journée, il y en a une 30 à 35 qui sont dans les agendas, et le reste, c'est les gens qui viennent sur le salon qui n'ont pas de stand.
Et le pourcentage de comment, une fois que vous faites le tri, et puis après le salon, de rendez-vous qui vont vraiment se concrétiser. Vous avez une idée?
Alors, l'année dernière, on avait eu entre 40 et 50 rendez-vous en tout sur la journée. Mmh. Et on avait refait des seconds rendez-vous derrière pour une quinzaine de personnes.
Oui.
Voilà. Donc c'était pas mal. Après, ça prend pas, mais il y a des intérêts. Donc il y a des choses qu'on veut. Enfin, le temps de la valorisation, c'est un temps long.
On
prend des rendez-vous, on prend acte, on se dit, ça serait bien, il y a peut-être des choses à faire ensemble, mais ça se fait pas tout de suite. Donc il y a des gens qu'on va sans doute revoir sur le salon, et ça va réactiver quelque chose qui, du coup, avancera peut-être un peu plus vite. C'est des temps longs, il faut faire avec.
Nous, on met en avant les expertises de nos laboratoires et notre plateforme, et ensuite, effectivement, il y a une mise en relation qui est faite aussi avec les bons interlocuteurs qui doivent se saisir des projets en fonction des projets. Du coup, effectivement, c'est un temps qui est relativement long, mais c'est vrai que c'est un événement qui est quand même très qualitatif, qui permet en une journée d'être très actif, en fait.
Oui, puisque vous m'avez fourni quelques chiffres, donc c'est plus de 15 000 rendez-vous, one-to-one, organisés sur une journée, 600 start-up, entreprises innovantes et structures de recherche venues présenter leurs solutions, 300 visiteurs, des grands groupes, dont des ETI. Donc c'est le rendez-vous, je pense, entre chercheurs et business.
Ouais. Nous, s'il y en a un qu'on fait dans l'année, c'est celui-là.
C'est celui-là.
Et assez bizarrement, on n'est pas si nombreux en tant qu'universitaires présents sur le salon.
Ah oui.
Donc avoir un stand. Je pense que les autres passent en visiteurs.
Ouais.
Mais avoir un stand sur le salon, il n'y en a pas beaucoup.
Parce que CY Transfer est très ciblé.
Oui, alors c'est aussi c'est la business unit. Enfin, dans les universités, il n'existe pas forcément des business units comme nous avec cette mission très proprement.
Ouais.
Mais par contre, ce qui est du coup en termes d'action de marketing et de communication, les gens s'interrogent en fait. Du coup, ça nous. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de personnes un peu curieuses qui se disaient, l'université fait de la R&D, on ouvre un champ des possibles. Et puis c'est vrai que du coup, ça nous permet aussi de communiquer sur tous les avantages qui s'offrent aux entreprises avec la recherche publique, qui n'est pas forcément bien connue. Oui,
c'est clair.
Voilà, et du coup, Isabelle, qui est complètement experte sur ce domaine, voilà, va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Mais du coup, c'est vrai que ça ouvre quand même, pour les gens qui viennent sur le salon, de venir nous rencontrer. Souvent, ils repartent avec...
des nouvelles perspectives pour leur propre entreprise, puisque on peut le rappeler, hein, donc au niveau de la R&D, c'est CY Transfer va s'intéresser à une entreprise et essayer de lui en faire sortir une nouvelle valeur ajoutée à partir de R&D.
Oui, alors en fait, on va aller à la rencontre d'entreprises et on va leur montrer toutes les possibilités, les expertises de nos laboratoires et de notre plateforme, et les modalités possibles aussi. Donc, on va parler de prestations, par exemple, sur certains labos ou certaines plateformes. On va parler de... Là, Isabelle, t'hésites pas à...
Oui, on va... En fait, l'avantage, c'est que collaborer avec nous, c'est avoir accès à des expertises et avoir des équipements. Puisqu'il y a certains équipements, on est les seuls à les avoir en France, mais c'est pas que, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'accompagnement, ça donne accès à des à la possibilité de répondre à certains appels à projets sur fonds publics, parce qu'il faut être accompagné d'un académique,
c'est ça,
et ça donne aussi accès à de la défiscalisation.
Oui,
voilà, pour les entreprises. Donc, et nous, on les accompagne sur ça aussi.
Mm-hmm. Oui, et j'avais retenu lors de la dernière venue de Pierre Vist, hein, j'avais pu faire venir une entreprise, hein, l'entreprise Ouragan, et ils avaient Pierre Vist avait proposé de faire aller des stagiaires chez Ouragan. Donc il y a aussi cette possibilité dans un premier temps,
oui, tout à fait,
pour pouvoir d'audit.
Puis après, nous, on peut les mettre en relation avec la direction formation, qui va pouvoir leur proposer des stagiaires, des alternants. Voilà, donc c'est un package complet, en fait, l'université.
Oui, je pense que pour beaucoup d'entreprises qui a priori n'ont pas forcément l'idée d'aller vers la R&D, ça peut leur apporter une nouvelle ouverture, c'est clair. Très bien. Donc vous serez présente, Céline, au salon Techinov.
Oui, je serai présente.
Et vous aussi, Isabelle?
Peut-être. Sans doute, mais c'est pas encore tout à fait sûr. Ça dépendra du calendrier de CY Tech Labs, le programme d'accélération qui commence quelques jours après.
Très bien.
Sinon, on aura notre directeur Pierre Vist qui sera là.
Oui, qui sera là. Oui. Qui doit être très impatient des rendez-vous.
Oui, il est en train de les prendre aussi de son côté. Là,
puis on aura notre stagiaire. On profite pour faire de l'immersion de stagiaires dans le salon.
Donc, un mot d'ordre, il faut aller au salon Techinov.
Oui, surtout prendre rendez-vous avec nous découvrir tout ce qu'on peut proposer.
Très bien. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir sensibilisé à l'importance de ce salon et puis les opportunités de partenariat qu'il peut offrir à CY Transfer et aux entreprises surtout, hein, parce que c'est très... C'est très réciproque. Hein. Alors voilà, il est 10h46, donc on approche doucement de la fin de l'émission. Et comme par tradition, on fait un nouveau tour de table avec quelques mots de conclusion. Donc Quentin, je commence avec vous. Quentin Bonnefond, si
oui, alors simplement pour rappeler que nous restons à l'ER dans une logique qui a fait ses preuves de créer des passerelles entre différents mondes, d'être une interface, et nous poursuivons dans cette voie. Et je tiens également à remercier sincèrement d'abord CY Sergi par l'université, bien sûr, nos partenaires, nos doctorants et masterants, et surtout l'équipe de l'UER, ceux qui sont encore là et ceux qui sont partis, ils se reconnaîtront. Merci à eux, ils sont humainement passionnants et enthousiasmants, c'est un vrai bonheur de travailler avec eux, et je tenais à le souligner à l'antenne. Et également, je rappelle à nouveau la Summer School, dont les inscriptions se clôturent le 31 mars, et je vous remercie à nouveau de votre invitation à l'antenne.
Mais je vous en prie, Quentin, merci à vous, l'adresse pour les inscriptions se retrouveront sur le podcast de l'émission, donc comme ça vous
très
pourrez.
Bien, c'est parfait, merci.
Merci à vous. Isabelle Hofkens, un mot de conclusion?
Alors un mot de conclusion, venez nous voir.
Ou plusieurs.
Oui, venez nous voir au salon et restez à l'écoute de ce programme d'accélération qu'est CY Tech Labs, puisque il y aura une journée de clôture qui servira aussi de journée d'information pour ceux qui seraient intéressés pour la deuxième session.
D'accord.
On vous passera l'info pour que vous puissiez relayer.
Oui.
Et puis n'hésitez n'hésitez pas à venir à la rencontre de nos laboratoires. On peut organiser des rencontres, des visites de laboratoires, des rencontres avec des anciens chercheurs, et ça peut permettre de créer de la synergie et de la collaboration.
Quand vous dites qu'on peut visiter ces laboratoires, c'est-à-dire c'est ouvert à tout public?
Non, c'est pas ouvert à tout public, oui. Mais nous, quand on a des entreprises qui sont intéressées, on
voilà,
peut leur faire
des
faire
entreprises,
visiter.
Hein, voilà,
oui, on peut leur faire
ça.
Visiter entreprises ou partenaires socio-économiques,
oui,
les collectivités,
oui, oui.
Les voilà. Mais on peut effectivement faire visiter les laboratoires pour qu'ils puissent aller à la rencontre des enseignants chercheurs
et de savoir ce qu'ils peuvent en retirer,
tout à fait,
tout le bénéfice qu'ils
voilà.
peuvent en retirer et humainement et même économiquement,
les deux.
Absolument. Merci Isabelle Hofkens pour votre expertise. Céline Bertin, donc cette première radio, ça va?
Oui, ça va, un peu impressionnant, mais très chouette, très bien accueilli. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Oui, puis moi, du coup, je dirais également, n'hésitez pas à nous suivre. En fait, on a un compte LinkedIn,
CY
Transfer, où on publie à peu près deux fois par semaine toute l'actualité. Et si vous voulez découvrir au préalable nos laboratoires et nos plateformes aussi, n'hésitez pas à aller sur notre site. Je pense notamment pour les plateformes, on a élaboré des fiches sur pas toutes encore, mais une grande partie d'entre elles, des laboratoires, donc vraiment destination des entreprises pour mettre en avant l'expertise. Voilà, donc on parle de mots-clés scientifiques,
oui.
de mots-clés applications, de domaines d'application. Du coup, ça vous donne déjà une première, un premier scope de comment vous pourriez éventuellement, enfin, si le laboratoire a un intérêt pour collaborer avec vous, par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur le site internet où vous pouvez nous contacter aussi. On sera
très bien. Oui, je sais que tout le monde sera bien accueilli si on vous contacte. Merci beaucoup, Céline. Merci aussi d'avoir proposé ce rendez-vous ce matin pour nous ouvrir à ces sciences humaines, hein, parce que là encore, moi, je peux paraître très candide, mais au fond, j'ignorais qu'on pouvait aborder ces thèmes-là chez CY. Donc, merci encore. Merci à chacun d'avoir été les invités de l'économie en direct, et puis merci de vous mobiliser dans vos projets, toute l'énergie que vous déployez pour les mettre en place. Dans quelques minutes, à 11h, on retrouvera Christophe Gravreau et son émission Balade musicale. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Retrouvez cette émission comme vous le souhaitez avec son podcast sur IDFM Radio 98.fr. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vendredi prochain, une deuxième émission consacrée au label Amplitude. Alors rendez-vous à 9h30 et d'ici là, bonne journée et bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
J'aime tes yeux, j'aime ton odeur.